d'écouter RFI, 23h à Paris, 22h temps universel.
24h en France.
Et nous sommes ensemble pour 30 minutes consacrées à l'actualité française des dernières 24 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Paul Lancin-Spinelli.
Avec à la une cette super prison pour les grosses têtes du trafic de drogue. 100 y seront incarcérés à partir de la fin juillet. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Une première marche gravie dans l'ascension de la montagne parlementaire dressée devant le projet de loi de finances. Le texte a été adopté par les sénateurs ce jeudi. Il devra franchir l'étape de la commission mixte paritaire puis celle de l'Assemblée nationale. La gauche et le parti socialiste notamment refusent de voter le texte en l'état. Un polluant éternel qui gangrène l'eau du robinet dans de nombreuses villes françaises, selon une étude. Emilia Pérez à la conquête d'Hollywood, le film de Jacques Audiard est nominé dans 13 catégories aux Oscars. Et puis vos rendez-vous habituels dans la deuxième partie de 24 heures en France, le journal des Outre-mer, le Conseil Santé et un reportage sur les pannes d'ascenseurs. 1 500 000 sont enregistrés chaque année en France. L'Assemblée nationale se penche sur le sujet.
RFI.
Regrouper pour mieux surveiller, c'est l'ambition de la toute première prison de haute sécurité où seront enfermés les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Une promesse faite ce jeudi par Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice promet une mise en service dès le 31 juillet prochain, Olivier Sherman.
Une première prison dès cet été, puis deux autres créées dans les deux prochaines années. Il y aura donc 600 narcotrafiquants regroupés dans des prisons de haute sécurité uniquement entre eux. Les plus gros narcotrafiquants du pays, qu'ils soient en détention provisoire ou en peine définitive, seront transférés à partir de mars dans un établissement rénové, le ministre de la Justice Gérald Darmanin.
Ce sera un lieu de détention inviolable, où il sera absolument impossible de se faire livrer téléphone ou drogue, de menacer les agents ou de communiquer à l'extérieur.
Le lieu de cette prison n'a pas encore été dévoilé, mais du côté des surveillants, c'est plutôt l'inquiétude qui domine après cette annonce, comme le souligne Samuel Gauthier, secrétaire général CGT pénitentiaire.
Ça ressemble plus à une cocotte minute. Regrouper des individus pour les mêmes faits dans une seule et même structure paraît à notre sens compliqué en termes de gestion et mettra en tout cas en difficulté les personnels que nous sommes face à ce type d'individu.
Un budget de 4 millions d'euros a été débloqué pour la mise en place de cet établissement pénitentiaire qui sera entièrement rénové pour devenir un lieu inviolable.
Olivier Sherman, et aujourd'hui, sachez que 17 000 personnes environ sont détenues en France pour des faits liés au trafic de stupéfiants et à la criminalité organisée. L'engrenage parlementaire reste encrassé, mais se débloque peu à peu pour le budget 2025 en France. Le Sénat a voté aujourd'hui en faveur de ce texte déposé au Parlement il y a plus de 3 mois par le gouvernement précédent, celui de Michel Barnier, censuré et donc renversé depuis. Une première étape franchie aujourd'hui par le gouvernement, cette fois de François Bayrou dans ce long processus. Charlotte Urien-Tomaca.
217 votes pour et 105 contre. Le projet de loi de finances a donc été adopté en première lecture ici au Sénat. La droite dispose de la majorité à la Chambre haute et dans le détail, l'alliance droite-centriste, soutien du gouvernement, a voté pour, contrairement à la totalité de la gauche, y compris le groupe socialiste pour qui, je cite, le compte n'y était pas. Prochaine étape donc le 30 janvier avec la commission mixte paritaire réunie pour aboutir à un texte de compromis susceptible de résister à la censure de l'Assemblée nationale. Et si les 7 députés et 7 sénateurs de la commission y parviennent, le projet de budget sera ensuite soumis aux députés dans la semaine du 3 février. Ils devront effectuer un ultime vote, à moins que le Premier ministre François Bayrou décide de faire usage de l'article 49.3 de la Constitution. D'ici le 30 janvier, date de cette CMP, le PS espère encore faire bouger les lignes et met la pression sur le gouvernement.
Charlotte Urien-Tomaca est justement dans les rangs de la gauche. On compte accentuer la pression sur l'exécutif pour obtenir de solides garanties dans ce budget 2025. Écoutez à ce propos le sénateur du Parti Socialiste, Rachid Temal.
Le budget n'est pas bon aujourd'hui, objectivement. Je pourrais citer la liste des engagements qui sont pas bons pour les Français. Et puis après, vous avez un deuxième point qui est la droite sénatoriale a fait le choix de supprimer des engagements qu'avait pris le Premier ministre. Par exemple, sur les 4000 profs dans l'éducation nationale, puisqu'il y en avait un moment qui permettait justement d'annuler l'annulation des 4000 postes, et la droite s'y est opposée. Et donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a toujours la suppression des 4000 postes. C'est un exemple qui démontre que M. Bayrou a quand même un sujet avec ses troupes, que ce soit au Sénat, et j'espère pas à l'Assemblée.
Le sénateur Rachid Temal.
24 heures en France.
Un leader du mouvement contre la vie chère en Martinique, condamné à de la prison ferme, Rodrigue Petitot, a été présenté hier, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, notamment pour violation de domicile envers le préfet du territoire. Au moins 30 mois de prison, dont 15 avec sursis, ont donc été requis contre le militant Laurence Théo.
C'est donc plus d'un an de prison ferme requis contre le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique. Déjà connu de la justice, Rodrigue Petitot, surnommé le R, avait déjà été condamné une première fois, en décembre, à 10 mois de prison ferme aménageable pour intimidation envers plusieurs maires de Martinique. Il lui est cette fois reproché de s'être introduit avec 3 autres militants dans la résidence du préfet et de l'avoir agressé verbalement. C'était le 11 novembre dernier, en marge d'une visite du ministre chargé des Outre-mer de l'époque, Jean-Noël Buffet. Rodrigue Petitot ne reconnaît aucun des chefs d'accusation qui lui sont reprochés dans l'affaire dite de la résidence préfectorale. Devant le tribunal, il a soutenu qu'il n'y avait pas eu de violation de domicile puisque la barrière était ouverte. Le visionnage durant l'audience d'images de la caméra de surveillance confirme cette précision du prévenu. Rodrigue Petitot dénonce une décision politique. On veut incarcérer le symbole de la vie chère. Alors que l'île a été marquée en 2024 par des semaines de tensions et plusieurs nuits d'émeutes.
Laurence Théo, et dans sa plaidoirie, la défense de Rodrigue Petitot a sollicité la relaxe. La décision sera rendue ce vendredi. Une eau qui est trop souvent polluée dans les robinets français. Selon une étude menée par l'association de consommateurs UFC Que Choisir et l'ONG environnementale Génération Future, étude publiée ce jeudi, un composé chimique appelé TFA a été retrouvé dans l'eau potable d'une large majorité des villes analysées. Stéphanie Schuller.
L'acide trifluoroacétique, ou TFA, est une substance qui résulte de la décomposition d'autres produits chimiques toxiques de la famille des PFAS, aussi appelés polluants éternels. Avec seulement 2 atomes de carbone, le TFA est de très petite taille et échappe ainsi aux techniques de décontamination. Résultat, dans 20 villes françaises sur 30 analysés, il dépasse largement la norme de référence en vigueur, comme à Paris, Lyon ou Bordeaux. Les scientifiques manquent encore de données sur la toxicité du TFA et ses conséquences sur la santé humaine, mais comme l'explique Pauline Servant, toxicologue de l'ONG Génération Future.
Les effets qu'on retrouve assez systématiquement dans les études, donc chez les animaux, sont des effets sur le foie. Et il y a aussi une étude qui est assez préoccupante qui est faite chez des lapins qui indique des risques de malformation des fœtus. Et donc cette étude a poussé l'Allemagne à proposer à classer le TFA en tant que reprotoxique, toxique pour la reproduction.
Les auteurs de l'étude réclament l'arrêt urgent des émissions de TFA dans l'environnement et donc l'interdiction des substances qui se dégradent en TFA, comme les gaz fluorés utilisés dans les frigos ou encore certains pesticides.
Stéphanie Schuller, boire au robinet peut donc avoir des conséquences néfastes sur la santé, mais c'est aussi le cas lorsque vous voulez juste prendre soin de vos cheveux. 3 femmes ayant réalisé un lissage brésilien chez leur coiffeur ont connu des complications. La raison, c'est la présence d'un produit appelé acide glyoxylique. En s'appuyant sur des études scientifiques sur cet agent, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a donc mis en garde sur ces lissages brésiliens, comme l'explique Pauline Guillou. Elle est toxicologue à l'ANSES.
L'acide glyoxylique, l'expertise qui vient d'être menée par l'agence, a mis en évidence que cette substance pouvait induire ce qu'on appelle les insuffisances rénales aiguës. À savoir qu'une fois que cette substance est absorbée dans notre organisme va la métaboliser, la dégrader en des petits cristaux qui vont venir se loger dans les reins et empêcher le fonctionnement normal des reins. L'ANSES aujourd'hui, dans l'expertise qui a été menée, a mis en évidence le lien causal de l'acide glyoxylique avec les insuffisances rénales aiguës qui ont été observées à la suite de réalisation de lissage brésilien. Donc, l'agence a estimé que le lien entre l'acide glyoxylique et ces insuffisances rénales aiguës était fortement probable. Et donc, l'agence recommande une prise en charge maintenant au niveau européen de cette problématique pour que des mesures réglementaires soient prises.
Pauline Guillou. Et puis, plus qu'un pas avant qu'Emilia Pérez n'atteigne le sommet du cinéma, avec 13 nominations aux Oscars annoncées ce jeudi. Le film du réalisateur français Jacques Audiard bat tous les records pour un film non anglophone. Après avoir été primé au dernier Festival de Cannes et après avoir décroché plusieurs Golden Globes, la comédie musicale est donc dans les meilleures dispositions pour continuer sa moisson mondiale, Sophie Dorlotin.
Emilia Pérez portait les couleurs de la France dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger. Non seulement le film français est retenu dans cette catégorie, mais, et c'est remarquable, il concourt également dans les catégories reines. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Jacques Audiard, meilleure actrice pour la comédienne trans Carla Sofia Gascoigne, meilleur second rôle féminin pour Zoé Saldana, sans compter 3 nominations pour la musique. Deux titres du film sont en lice pour le même Oscar, celui de la meilleure chanson. Les compositeurs Camille et Clément Ducol doublent donc leur chance de remporter le trophée. Emilia Pérez devance même largement avec ses 13 nominations les deux autres favoris de Brutalist et Wicked. Cette comédie musicale tournée en espagnol sur un narco-trafiquant changeant de genre et de vie a donc conquis Hollywood. Un exploit d'autant plus symbolique au moment où Donald Trump, dans son discours d'investiture, s'est livré à une attaque en règle contre les personnes transgenres.
Sophie Torlotin, c'est la fin de ce journal RFI. Il est 23h11 à Paris. Tout de suite, notre invité.
24h en France. Paul Lancin-Spinelli.
L'épreuve du retour dans son milieu d'origine après s'en être grandement éloigné. Cette thématique, c'est celle qui imprègne l'ouvrage « Par les villages » écrit par le dramaturge autrichien Peter Handke. On découvre Grégor devenu écrivain et qui revient dans le village de son enfance. Une histoire adaptée au théâtre par Sébastien Kérouffi. Ce metteur en scène d'origine algérienne adopte comme cadre sa banlieue parisienne plutôt que la campagne autrichienne. Cette semaine, la pièce est jouée au théâtre des quartiers d'Ivry au sud-est de Paris. À cette occasion, Muriel Mahalouf a rencontré le metteur en scène.
Sébastien Kérouffi, vous mettez en scène Par les villages de Peter Handke, qui démarre par le retour du frère dans sa famille. Que raconte Par les villages ?
Par les villages, ça raconte avant tout une tragédie familiale à l'intérieur d'une tragédie sociale et à la fin qui émane un poème dramatique.
Alors cette tragédie familiale, c'est aussi le fait que cette famille considère ce frère qui est parti comme un traître. Hein.
Je pense que c'est plus lui qui dit, mais dès le prologue, je sens mon irresponsabilité et ma trahison. Je sais que je ne peux rien faire pour mon frère et ma sœur, je ne peux que maintenir. Et cela, je le veux à tout prix maintenir. Oui, c'est lui, je pense, qui sent ce sentiment de trahison et justement qui fait qu'il revient avec ce sentiment-là. Et après... C'est toujours, en fait, c'est le malentendu entre les êtres, le malentendu entre l'écrivain et l'ouvrier, le malentendu entre ce frère à l'intérieur de cette fratrie, le malentendu entre deux milieux sociaux qui s'opposent. Enfin, en tout cas, moi, le spectacle, je l'ai vraiment bâti sur ce malentendu-là.
Alors, le frère qui est parti est interprété par Reda Kateb et il a quitté une cité, on parle d'une cité, donc vous avez transposé tout ça dans la banlieue ?
Complètement. J'ai pas du tout grandi, moi, dans un village autrichien, j'ai grandi dans un quartier en banlieue parisienne, et donc très vite, moi, ce texte-là, je l'ai entendu à l'endroit de ma cité. Ça résonne très fort pour moi, la question des offensés, des exploités, des humiliés, et très vite, la poésie permet d'éviter toute récupération ou tout fantasme, c'est juste à l'endroit le plus juste et c'est pour ça que j'ai voulu transposer ce texte-là en disant en fait la poésie elle peut toucher tout le monde, qu'on soit dans un village autrichien ou dans un quartier en France ou peu importe en fait.
C'est vrai qu'il résonne vraiment très fort avec le monde, il y a des phrases comme ça qui jaillissent, comme par exemple « Il n'est pas silencieux, il est dénué de bruit ».
Complètement, mais il y a tellement où « retourne chez toi à l'étranger, il n'y a que là-bas que la joie soit proche de la terre. Pour un être humain, il faut un grand pays et l'abandon. Et où sont ici les abandonnés ?» Enfin, chaque soir, je redécouvre le texte en permanence. Je travaille sur ce texte depuis 3 ans, 4 ans. Et c'est une matière inépuisable.
Alors ce texte, votre mise en scène, c'est avec 11 acteurs, mais aussi un chœur immense. Combien de personnes il y a sur scène en tout ?
Chaque soir, on est entre 60, 80, 90. C'est un chœur qui est constitué de 100 habitantes et habitants d'Ivry-sur-Seine. Et ce chœur, en fait, c'est le chœur du village. C'est-à-dire que très vite, la question de la représentation s'est imposée. Comment on représente un territoire ? Un territoire discriminé, un territoire souvent fantasmé. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que pour être le plus juste à l'endroit de cette question de la représentation, bah c'est en travaillant avec les gens qui y vivent.
Et il y a aussi les langues.
Et complètement, on entend du créole, on entend du slovène, on entend de l'algérien. Enfin ouais, pour moi, j'ai été bercé par différentes cultures. Mais pour moi, ça paraît assez évident, mais très simple en fait, sans en faire aucune forme de militantisme en fait.
Alors il y a la langue et il y a aussi le rythme, puisque le rap est là, et qui est porteur d'espoir.
Mais complètement, parce que le rap c'est rythme et poésie à la base, c'est aussi cet endroit de révolte sociale.
Shukran, merci.
Merci beaucoup.
Le paysage existe où vous pouvez tourner en rond, et derrière vous...
Le metteur en scène Sébastien Kérouffi, invité de Muriel Mahalouf. Presser le bouton de l'ascenseur en vain, devoir monter 10, parfois 15 étages à pied, ça fait très souvent râler. Vous avez peut-être déjà vous-même été confronté à ce désagrément. Chaque année, 1 500 000 pannes d'ascenseurs sont comptabilisées en France. Alors pour gommer ce problème du quotidien, une proposition de loi est débattue depuis aujourd'hui, jeudi, par les députés à l'Assemblée nationale. Et pour certaines personnes, c'est un véritable calvaire et il y a urgence, Sylvie Coffi.
Dans une banlieue résidentielle à Rueil, Malmaison, Abdeladim ou Taleb se déplacent en fauteuil roulant. Ils louent un appartement situé au deuxième étage. Suite à de fortes pluies, l'ascenseur est en panne et ça dure depuis 2 mois.
Je vis un enfer, quoi, quand même. J'ai l'accessibilité, mais je peux pas me rendre en bas pour des activités autres que celles du télétravail que j'ai chez moi. J'ai envie d'aller dans des musées, j'ai envie d'aller dans des parcs, j'ai envie d'aller prendre l'air, comme tout le monde, quoi. Moi, qui suis en situation de handicap, j'ai l'impression d'être en prison, quoi. Pour l'instant, moi, je subis.
Pour sortir enfin de chez lui, Abdeladim a trouvé la solution. Il fait appel au service de Foued Ben Ahmed, ce militant au sein du collectif Plus sans ascenseur, a lancé il y a quelques années SAMV, une société d'assistance à mobilité verticale qui développe un outil pour ne plus laisser sur le carreau les personnes à mobilité réduite.
On a adapté en fait un moteur électrique avec des équipements spécifiques répondant à nos usages. On peut déplacer une personne du rez-de-chaussée au 18e étage jusqu'à 130 kg sur tout type d'escalier. Le plus important, c'est la formation, la compétence. Nos assistants sont un peu des guides de haute montagne.
Le guide de haute montagne qui vient délivrer Abdeladim s'appelle Willy, très souriant. Abdeladim est harnaché à une chaise très particulière. Avec un moteur électrique à la base, son mouvement rotatif épouse les marches et permet de les descendre. Un travail très particulier pour le jeune de 22 ans.
C'est assistant à mobilité réduite. C'est pas un boulot commun, rendre service, j'aime ça, mais ça demande vraiment de la patience. Une fois qu'on comprend le mécanisme de la chaise, il faut se mettre sur le bord, ensuite il faut pencher la chaise, il y a le bouton aussi, il y a les 3 vitesses. C'est la chaise qui fait tout, nous on est vraiment là en tant qu'assistant.
Les pannes d'ascenseur récurrentes s'invitent aussi au sein de l'hémicycle. Le député socialiste Philippe Brun porte une proposition de loi.
Avec cette loi, on remet de l'ordre finalement dans ce système de la maintenance des ascenseurs. Obligation de stock de pièces pour les sociétés ascensoristes, obligation de délai d'intervention, obligation de mesures de prescription pour... qu'il y ait, dans le cas d'une panne prolongée, des mesures de substitution, donc portage de repas, portage de courses, portage même de personnes et de sociétés qui font ça aujourd'hui dans les escaliers.
Alors que les députés planchent pour trouver une solution, Abdeladim a pu descendre ces dizaines d'escaliers.
2 minutes pour descendre. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une solution alternative qui est utile, SAMV, mais ça devrait être juste à court terme. J'ai envie de retrouver ma vie normale.
Chaque année, on recense 1,5 million de pannes d'ascenseurs en France.
Reportage de Sylvie Coffi, RFI, il est 18h19 à Fort-de-France.
Le journal des Outre-mer.
À toute l'actualité ultramarine avec nos confrères de La Première, la problématique de la vie chère qui mine toujours le quotidien des Martiniquais. C'est à la une de votre journal, Emma Jaconelli. Bonsoir.
Bonsoir. Nouvelle audience ce jeudi au tribunal de commerce de Fort-de-France. Une procédure initialement lancée par 4 lanceurs d'alerte. Leur demande, que les géants de la grande distribution en Outre-mer respectent leurs obligations légales. Et ce sont ces mêmes lanceurs d'alerte qui ont déposé la semaine dernière une plainte contre X pour entente illicite et abus de position dominante. Cette fois, tous les grands groupes de distribution Outre-mer sont dans le viseur. Une plainte que le groupe Bernard Ayotte a qualifiée de calomnieuse. Cette action, ouverte à tous les citoyens ultramarins, a déjà recueilli plus de 500 signatures. Leur avocat, Renaud Portejoie, interrogé par Sébastien Gilles.
Nous avons recueilli, 5 jours après le dépôt de cette plainte, plus de 500 plaintes de notre côté, 500 personnes qui ont fait cette démarche en s'estimant victimes et rejoindre ce combat judiciaire. Plus nous serons, plus nous pèserons dans ce combat judiciaire. Nous souhaitons qu'une enquête soit diligentée et encore une fois que la lumière soit faite, tout simplement. Nous ne visons personne en particulier. Nous pensons que les responsabilités sont partagées. Alors il est évident que le groupe Bernard Ayotte en Martinique cristallise beaucoup de choses, mais ça n'est pas un combat contre le groupe Bernard Ayotte en particulier. Nous verrons si la plainte n'est pas calomnieuse. Elle repose sur un article qui fait état de confidences, de témoignages et de documents en interne qui démontrent ces infractions pénales.
Et à l'Assemblée nationale, la proposition de loi contre la vie chère, portée par la députée socialiste martiniquaise Béatrice Belé, a été adoptée. Objectif, redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et assurer plus de transparence sur les prix. Les élus ultramarins se sont dit satisfaits de cette avancée, mais restent vigilants sur la suite du parcours de la loi. Elle doit encore passer au Sénat pour être absolument validée. Et à Mayotte, l'économie a du mal à se relever après le passage du cyclone Chido. Une bonne partie de la population, mais aussi des entreprises et des infrastructures ont été touchées. L'État vient de commencer à verser le fonds de solidarité promis aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de relancer l'activité. Le reportage d'Abderrahmane Saïd de Mayotte la Première.
À la sortie des commerces, les chariots des différents clients sont quasiment vides.
Il manque des fruits, des légumes, des produits frais, il n'y a pas. Il n'y a pas de variété, les yaourts, il n'y a pas de variété. Les packs d'eau, il faut attendre que le monsieur amène la palette.
Il y a des produits, c'est très compliqué à trouver. Des aliments pour bébés, l'eau, le riz et tout. C'est très difficile.
Chez ce spécialiste du bricolage, après Chido, le stock d'un trimestre est parti en quelques jours et le ravitaillement va être long. Le vendeur Henri Moussoufou Kassim.
Pour rattraper ça, c'est un souci. S'il y a 3 mois de délai, quand même, pour recevoir la marchandise de la métropole ici à Mayotte. Donc, vous voyez ce que ça donne, quoi.
Certaines petites et moyennes entreprises ont commencé à recevoir le fonds de solidarité entre 1 500 et 3 000 euros, ce qui va permettre de relancer l'outil de travail ou de production. Par contre, elles se heurtent à la pénurie de matériaux et d'outils de travail. Ibrahim Alioussini, président de la CPME Mayotte.
Les choses deviennent de plus en plus compliquées et les prix sont en train de monter en flèche vu la rareté des matériaux. Cela pénalise la reprise et la relance économique.
Une situation qui pénalise quasiment tous les secteurs sans faire état des conséquences de Chido.
La rentrée universitaire calédonienne approche à grands pas. Elle est prévue pour le 6 février. La maison de l'étudiant a accueilli ce matin les premiers qui habiteront sur le campus. Ils seront au total 600 à être logés sur les 2 résidences. Les associations étudiantes s'attendent à quelques difficultés car la crise de l'an dernier a laissé des traces. Yannick Clairan, directrice de la maison de l'étudiant.
Une rentrée particulière, l'année 2024 a été relativement traumatisante pour nos étudiants. Les résidences étaient toutes situées dans des quartiers qui étaient en plus particulièrement soumises aux émeutes. Donc c'est une année qu'on appréhende un petit peu, mais en même temps il faut qu'on se mobilise pour permettre à nos étudiants d'être aidés, d'être accompagnés. Certaines situations ont changé, des étudiants ont pu voir leurs parents perdre leur emploi, leurs entreprises qui sont parties en fumée. Donc on est là pour justement aider au maximum le plus grand nombre et pallier l'augmentation notamment du prix des transports, faire en sorte que ces étudiants puissent avoir une année qui soit sereine et les aider à réussir dans leurs études.
Des propos recueillis par Maurice Violeton et Daniel Abdou de Nouvelle-Calédonie La Première. Bonne soirée.
Une bonne soirée Emma, c'était le journal des Outre-mer.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Le Conseil Santé consacré aujourd'hui à la lutte contre la consommation de stupéfiants. Pour en parler, Caroline Paré reçoit Amine Benyamina.
Professeur Amine Benyamina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif en région parisienne. Est-ce que l'approche du tout répressif a fait ses preuves en matière de lutte contre la drogue ?
Bien sûr que non. On a beau le dire, le répéter, on a quand même le sentiment que c'est pas du tout une approche pragmatique, mais plutôt une approche politique. Je dis les choses parce qu'au bout de quelques années, je pense que c'est pas une question d'impertinence, c'est une question de pragmatisme. Tous les pays du monde avancent actuellement, pour ceux qui ont vraiment l'intérêt d'avancer de manière pragmatique, avancent sur les deux jambes, c'est-à-dire à la fois le répressif. Évidemment, on ne va pas cautionner le grand banditisme qui devient le banditisme international, et la prise en charge, la santé, la prévention. Ce qui ne semble pas être actuellement l'envie ou bien l'orientation affichée par les dernières annonces que j'ai entendues à titre personnel.
Dans un pays comme la France, il faut faire revenir le soin et la prise en charge des personnes en situation de dépendance au cœur du problème.
Alors, d'abord et avant tout, il y a un esprit. Il ne faut pas criminaliser les consommateurs. On a affaire pour la grande majorité de personnes qui sont malades et qui très clairement se retrouvent dans une démarche délictuelle. C'est comme ça, quand on consomme de la drogue, c'est interdit par la loi. Et donc, il y a des dispositifs juridiques qui permettent aux personnes de se faire soigner de manière gratuite et anonyme. Il y a aussi la nécessité de réprimer le grand banditisme qui, comme on le sait, génère beaucoup de violence. Et je pense que le souci le plus important, c'est de marcher de manière équilibrée sur ses deux jambes.
Merci professeur Benyamina. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler du mal du pays. Sentiment de manque, de solitude, d'insécurité quand on vit loin de son pays d'origine et de ses proches. Certains symptômes peuvent rappeler un épisode dépressif. Comment aider, comprendre cet état mélancolique ? Priorité Santé, 9h10, 1h10, temps universel. Et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré. C'est la fin de cette édition de 24h en France. Fabrice Violet était à la réalisation. François Ballard à la rédaction en chef. Dans 3 minutes, vous retrouvez Sylvie Berruet pour la dernière édition d'Afrique Soir avec à la une la situation sécuritaire en RDC. Mais avant cela, on part à New York pour faire un petit point sur la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et la bourse est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones grimpe de 408 points, ce qui le reconduit à 44 565 et le Nasdaq en s'offrant 44 points. Atteint 20 054. Le message protectionniste et souverainiste adressé par Donald Trump aux participants aux réunions de Davos et tout particulièrement aux Européens a contribué à décourager le marché obligataire aujourd'hui. La perspective de droits de douane systématiquement imposés aux pays qui veulent vendre leurs produits sur le marché américain plutôt que le fabriquer aux États-Unis fait craindre une hausse de l'inflation. Le rendement du T-bond à 10 ans remonte à 4,64. Donald Trump a en outre tenu sa promesse électorale. Il compte demander à la Fed de baisser ses taux et il demande aussi à l'Arabie Saoudite de baisser les prix de son pétrole. Voilà qui ferait, selon lui, baisser les taux d'intérêt dans le monde entier et les prix du pétrole dans le monde entier. La menace de droits de douane punitifs de 25% sur les produits vendus au Mexique et au Canada est toujours en place, mais les investisseurs doutent que l'administration Trump mette cette menace à exécution, car beaucoup d'entreprises américaines implantées au Canada et au Mexique dépendent du libre-échange dans la zone nord-américaine. L'euro s'apprécie à 1,0417, le baril de pétrole américain rend plus d'1% et revient autour de 74,50 $. A signaler la forte hausse du cours de GE Aerospace, un gain de plus de 6%, les résultats trimestriels et les perspectives de résultats du géant de l'aéronautique dépassent les prévisions. Le Dow Jones arrache 0,9%, le Nasdaq grappille 0,2%, et l'indice S&P 500 améliore son record de la veille sur un gain de 0,5%.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Suzanne Valadon ou l'histoire d'une artiste sans concession, modèle de Renoir ou Toulouse-Lautrec. Née dans le Montmartre populaire du début du XXe siècle, elle n'a jamais lâché sa passion du dessin et de la peinture, souvent au mépris des conventions. Le Centre Pompidou lui consacre une première grande exposition.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.
l'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.